J'en viens à la présentation de notre conférencier de ce soir, Jacques Mauret. Jacques Mauret est biologiste, il est directeur de l'unité inventaire et suivi de la biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai donné quelques éléments de son parcours. Il est agrégé de sciences naturelles, il est docteur en sciences. Entre 1995 et 2003, il a été directeur du Conservatoire botanique national du bassin parisien. Et depuis 2002, il est directeur de l'unité inventaire et suivi de la biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. Il est spécialiste de la biodiversité en France, de l'inventaire des espèces biologiques, animales et végétales. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques nationales et internationales. Il est également l'auteur d'un ouvrage qu'il a écrit en collaboration avec UNIO, qui s'appelle « Atlas des plantes protégées de la Sarthe » aux éditions du Muséum national d'histoire naturelle et qui est paru en 2003. Jacques Mauret, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra une série de questions-réponses avec le public. Je vous remercie.
Eh bien, merci. Je vais donc vous parler aujourd'hui de biodiversité à Paris. Alors, la biodiversité, vous en avez certainement entendu parler, car c'est un thème d'actualité, et tous les médias parlent de biodiversité. Paris, c'est aussi un thème éternel, dont vous avez tous entendu parler. Mais la biodiversité à Paris, c'est un thème plus surprenant, parce qu'on se demande quelle est la place des animaux et des plantes sauvages dans un univers aussi minéral que Paris. Et pourtant, ils ont une place. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai que de plantes et d'animaux sauvages, je ne vous parle pas des animaux domestiques, ni des arbres d'ornement qui alignent toutes les rues de Paris. C'est un thème qui peut paraître aussi étrange quand nous évoquerons certains animaux qui vivent ou qui ont vécu dans Paris, et en particulier une espèce bien surprenante. Alors la conférence partira d'une question, qu'est-ce que la biodiversité ? Nous tenterons de définir ce que les scientifiques entendent par biodiversité, pour aboutir à une question, quel avenir pour la biodiversité à Paris ? Et entre-temps, nous essaierons de voir quelles sont les données historiques que nous possédons pour Paris, ce qui permet d'apprécier l'évolution de la biodiversité, et quelle est aujourd'hui la biodiversité au XXIe siècle à Paris. Alors les scientifiques définissent la biodiversité comme l'ensemble des gènes, des espèces et des écosystèmes d'une région. En fait, la biodiversité, c'est un objet d'étude très ancien, parce que les naturalistes étudient depuis des siècles la diversité des faunes et des flores, et depuis plus récemment, la diversité des écosystèmes. En somme, depuis très longtemps, ils font de la biodiversité, eux aussi, sans le savoir. Mais le mot biodiversité a été véritablement forgé en 1985 aux États-Unis, à l'occasion d'un colloque, et c'est un auteur américain qui, pour la première fois, a employé ce terme. Alors, la traduction du mot anglais est soit biodiversité, soit diversité biologique. Le terme de biodiversité a reçu une véritable popularisation dans le monde politique et dans la société en 1992, à l'occasion du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro, où pour la première fois, on a pris conscience à une échelle planétaire de la dégradation de la biodiversité. En fait, aujourd'hui, la biodiversité est un véritable concept qui est en voie d'émergence et qui dépasse peu à peu les biologistes pour interpeller la société entière en plaçant l'homme au cœur du problème, à la fois en termes de dépendance par rapport à la biodiversité, mais bien sûr aussi en termes d'influence. Traditionnellement, les scientifiques distinguent trois niveaux d'organisation de la biodiversité. La diversité écologique, c'est l'ensemble des écosystèmes qui se trouvent à la surface de la Terre. La diversité spécifique, c'est l'ensemble des espèces qui peuplent chacun des écosystèmes. Et enfin, la diversité génétique, c'est l'ensemble des individus génétiquement différents qui forment chacune des espèces. Alors bien sûr, aujourd'hui, en étudiant encore la typologie de ces grands niveaux de la biodiversité, on continue à décrire des écosystèmes, on continue à décrire des espèces, et on est loin d'avoir fini, et on essaye toujours de comprendre la structuration de la diversité génétique. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une approche fonctionnelle de la biodiversité, essayer de savoir comment ces différents niveaux interagissent entre eux, comment les différentes espèces d'un écosystème arrivent à former cet écosystème, c'est-à-dire essayer de s'apesantir sur les relations qu'il y a entre les niveaux de la biodiversité. C'est pourquoi l'objet d'étude qui est le plus important aujourd'hui dans les différents niveaux de la biodiversité, c'est celui de l'écosystème. Enfin, il faut savoir que de plus en plus, les scientifiques essayent de resituer la biodiversité dans une perspective environnementale beaucoup plus large, d'une part en prenant en compte le rôle de l'homme, et d'autre part, prenant en compte les facteurs abiotiques qui influencent sur la biodiversité. Et aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une intégration de la biodiversité dans les problèmes de société. Il y a d'abord une prise en compte du rôle de l'homme, comme je vous l'ai dit, par rapport à la biodiversité, soit en termes de dépendance directe, l'homme dépend directement de la biodiversité pour les ressources biologiques, pour les ressources alimentaires, soit en termes de dépendance indirecte par rapport aux services écologiques que rend la biodiversité. Par exemple, il est évident qu'il y a une interférence entre la biodiversité et l'évolution des climats, et qu'il y a aussi une interférence entre la biodiversité et le tourisme. On ne va pas n'importe où pour voir la nature dans le monde. Deuxième point, c'est que de plus en plus, on essaye de resituer la biodiversité par rapport à une approche socio-économique. Un seul exemple, il est clair que la préservation des grandes espèces de mammifères en Afrique ne peut passer que par un développement économique des pays qui les abritent. Ça ne sert à rien de désigner des espèces protégées en Afrique si parallèlement on n'assiste pas ces pays vers un développement économique durable. Et enfin, dernier point qui est assez intéressant, c'est qu'on assiste de plus en plus à une extrapolation de la biodiversité, du concept de biodiversité, d'une part vers la philosophie et d'autre part vers le monde politique. C'est-à-dire que la biodiversité est un véritable concept aujourd'hui en voie d'émergence dans le monde entier. Et on assiste peu à peu à un passage de la prise de conscience de la biodiversité par les scientifiques, dont dans un monde finalement assez clos, vers la prise de conscience de la biodiversité par l'ensemble de la société, et on passe de la biodiversité à l'étude du développement durable qui occupe aujourd'hui bien des personnes de par le monde. Alors c'est très intéressant parce que ça permet de prendre en compte la biodiversité d'une manière beaucoup plus large, et on peut espérer que par ce biais-là, elle sera mieux préservée, mais ça a aussi un danger, c'est que ça risque de diluer les problèmes qui sont posés à la biodiversité dans un contexte plus vaste. Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra envisager dans une autre salle. Alors, à Paris, quel est l'état de la biodiversité à Paris ? C'est vrai que quand on parle de biodiversité, on a plus tendance à faire référence à la biodiversité des forêts tropicales, et chacun d'entre vous connaît la disparition de surfaces de forêts tropicales très importantes chaque année. Plus proche de nous, la biodiversité fait référence immédiatement à des écosystèmes beaucoup plus protégés que Paris, comme par exemple les écosystèmes montagnards en France. Et pourtant, la biodiversité existe bien et bien à Paris. En fait, à Paris, on trouve des milieux naturels et bien sûr des milieux moins naturels. Les milieux naturels, ce sont les bois, les rivières, où les groupements végétaux sont assez bien conservés et en tout cas très proches de ce qu'ils sont par rapport à l'Île-de-France. Et puis le pôle extrême, ce sont bien sûr les milieux artificiels directement liés à la ville, tels que les murs, les interstices des pavés. Mais vous verrez que là aussi, il y a une certaine forme de biodiversité que l'on trouve. Et puis il y a les milieux intermédiaires, aux groupements végétaux naturels mais dégradés, comme les gazons, les friches, qui sont très riches en biodiversité à Paris. À Paris, on trouve quatre types d'espèces, animales et végétales, des espèces autochtones ou indigènes, qui ont été à Paris de tout temps, en tout cas que l'on connaît depuis très longtemps. Les espèces naturalisées ou exotiques sont des espèces étrangères qui ont colonisé Paris depuis fort longtemps et qui se comportent maintenant comme de véritables espèces indigènes. Et à côté de ça, deux autres catégories qui sont assez intéressantes, les espèces introduites récemment et qui auront pour certaines vocation à devenir des espèces naturalisées si elles subsistent, et puis les espèces accidentelles, échappées, et vous verrez que ce n'est pas anecdotique sur Paris. J'ai figuré sur cette diapositive deux milieux. Un milieu quasiment naturel, c'est un appendice du canal de l'Ourcq, où l'on trouve une végétation en bordure qui est quasiment semblable à la végétation de la plupart des rivières en Île-de-France. Et puis à côté de ça, un milieu complètement artificialisé, complètement minéral, qui est la cour carrée du Louvre. Donc, il n'y a rien de plus minéral que ça dans Paris. Et pourtant, dans les interstices des pavés, on trouve là aussi une végétation qui est très intéressante à étudier. Donc vous voyez qu'à Paris, la biodiversité est présente à tous les niveaux, au niveau des écosystèmes, au niveau des espèces et bien sûr au niveau des individus. Alors, quelles sont les données historiques que nous possédons pour essayer d'apprécier l'évolution de la biodiversité sur Paris ? Avant de vous parler de ces données historiques, et je ferai la distinction entre les données faunistiques et les données floristiques, qui vous verrez ne sont pas du tout de la même nature, je voudrais vous parler des problèmes que pose l'interprétation de ces données historiques, pour faire très attention par rapport aux conclusions que l'on peut tirer de l'évolution des faunes et des flores. Premier problème que posent ces données historiques, il est donné par exemple par les données archéozoologiques, c'est-à-dire les restes que l'on trouve en fouillant le sol. En fait, premier point, il y a très peu de restes animaux que l'on trouve sur Paris, en dehors des mammifères, aucun reste pour les invertébrés, et très peu pour les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les poissons. Donc, les données archéozoologiques sont très limitées au point de vue des groupes animaux. Deuxième problème, les ossements identifiés correspondent souvent à des restes alimentaires d'animaux qui ont été chassés à la périphérie de la ville et ne correspondent pas à la faune du centre de la ville. Troisième point, il ne faut pas confondre la faune du site de Paris et celle de la ville. Alors, je m'explique. Paris n'a pas toujours eu la surface que l'on connaît aujourd'hui. Paris a une surface qui a augmenté à travers le temps et des zones qui aujourd'hui sont urbanisées par le passé étaient sauvages. Et bien sûr, la faune qu'on trouve dans ces endroits qui étaient sauvages par le passé n'est pas la faune de la ville, mais la faune que l'on trouverait aujourd'hui en Île-de-France, par exemple. Un exemple, en faisant les fouilles lors de l'extension du Grand Louvre, et en particulier dans le jardin des Tuileries, on a mis en évidence un réseau de terriers fossiles de blaireaux. Et ce réseau de terriers date du XIIe siècle. Il est bien évident qu'à cette époque-là, le blaireau n'était pas un animal urbain. C'était un animal qui fréquentait la périphérie de la ville. Et bien à l'époque, le jardin des Tuileries était situé à la périphérie de la ville. Donc, premier type de précaution qu'on doit avoir par rapport aux données archéozoologiques. Deuxième problème qui se pose à nous quand on essaye d'interpréter les données historiques, le problème de la dénomination des espèces. Aujourd'hui, quand on parle d'une espèce, on emploie un code qui est un nom latin composé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. Vous savez que pour l'homme, c'est Homo sapiens. Et tous les scientifiques correspondent entre eux avec ces noms de code. C'est ce qu'on appelle les référentiels taxonomiques. Quand moi, je vais employer un nom d'espèce à Paris, par exemple pour la fève, je vais dire Vicia faba, eh bien n'importe qui dans le monde, n'importe quel botaniste, va savoir de quelle espèce il s'agit avec précision. Quand je vais en parler d'une espèce beaucoup plus rare, comme par exemple une petite iridacée qui vit dans le bassin méditerranéen et qui s'appelle Romulea arnaudii, tout le monde va savoir de quelle espèce il s'agit. Eh bien, ça n'a pas été toujours comme ça par le passé. Avant Linné, qui est le père de la nomenclature que l'on appelle binominale, les différents botanistes et naturalistes employaient chacun un système particulier. Et il est très difficile de faire la correspondance entre ce système particulier qu'ils employaient à l'époque et les noms que nous avons aujourd'hui. Un exemple qui est donné par l'ouvrage de Tournefort, qui a été publié en 1698, dont Tournefort a publié un ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, sur les herborisations de Paris. Et dans cet ouvrage, il décrit un certain nombre d'espèces, comme par exemple celle-là. Linaria, annua, purpuro, violacea, calcaribus longis, foliis, imis, rotunduribus. Bon, ça n'a rien à voir avec une nomenclature telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et il est très difficile de faire le passage entre cette description et la dénomination telle que nous la connaissons aujourd'hui. Par bonheur, Tournefort a eu la bonne idée de faire un herbier qui est conservé au Jardin des Plantes, au Muséum National d'Histoire Naturelle, et les scientifiques ont pu ensuite revenir sur cet herbier, faire les déterminations des plantes sur cet herbier, et comme ça, permettre d'établir une synonymie entre les descriptions de Tournefort à l'époque et la nomenclature actuelle. Mais il faut savoir que ça ne marche pas à tous les coups, et il y a à peu près 20% d'informations qui sont perdues par rapport à ce qu'ont publié les naturalistes antélinéens. Donc, deuxième source de désagrément par rapport aux données historiques. Troisième problème qui se pose par rapport aux données historiques, c'est l'identification des espèces. Quand un naturaliste au XVIIIe siècle a décrit un cerf à Paris, ou quand il a décrit un renard à Paris, pas de problème, on sait qu'il ne s'est pas trompé. Il y avait peu de chances qu'il se trompe entre les deux. Par contre, il y a des groupes d'espèces qui sont très proches, sur lesquels seul un spécialiste pointu peut arriver à une détermination précise. Et un bon exemple, c'est donné par ces deux espèces-là, la martre et la fouine. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la martre est essentiellement forestière, alors que la fouine est plus, vit davantage dans les milieux anthropiques, les milieux ouverts. Donc, quand on va avoir une donnée de martre, c'est qu'on aura affaire à un milieu plutôt forestier, et quand on aura une donnée sur la fouine, on aura affaire à un milieu plutôt anthropique. Et bien, du fait de la confusion qui existe entre ces deux espèces, on a renoncé à utiliser les données anciennes relatives à la martre et à la fouine, et on parle maintenant de données martre-fouine indistinctement. Donc là aussi, il y a une perte d'information par rapport à ce que permettait la détermination des espèces. Enfin, un problème qui se pose également, c'est le problème de la pression de l'échantillonnage. C'est-à-dire, est-ce que les naturalistes ont échantillonné, ont observé de manière homogène sur l'ensemble du territoire parisien ou non? Eh bien non, ce n'est pas le cas. À Paris, les naturalistes ont de tout temps prospecté certains milieux de manière privilégiée. La Seine, bien sûr, mais aussi les deux bois, ça se comprend, et de manière un peu plus surprenante, les cimetières. On a beaucoup plus de données sur ces trois endroits, les deux bois, la Seine et les cimetières, que sur le reste de Paris. Un bon exemple est donné par cette espèce-là, le pâturin annuel. C'est une espèce de plante qui est très commune, que l'on trouve partout, dans toutes les rues, entre les pavés de la cour du Louvre, là dehors, partout. Et elle a été présente de tout temps sur Paris. Donc on devrait obtenir des données sur cette espèce partout à Paris. Et bien quand on a fait le recensement des publications relatives à cette espèce, on s'est rendu compte que cette espèce manque dans la littérature, dans de nombreux arrondissements de Paris. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas à l'époque, mais ça veut dire tout simplement que les botanistes n'ont pas pris la peine de la noter. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris la peine de la noter, puisque c'est une espèce qui est assez répandue. Mais justement, c'est parce qu'elle est assez répandue. Bien souvent, les naturalistes par le passé se sont polarisés sur des espèces rares, sur des espèces emblématiques, négligeant les espèces communes. Et on souffre comme ça d'un déficit d'information très important sur les espèces communes, y compris sur le site de Paris. Autre problème, c'est qu'il y a très peu de données quantitatives sur les espèces. On a quelques observations éparses, mais jamais de données quantitatives fiables. Ce qui, quand même, pose le problème d'interprétation de ces données par rapport aux conclusions qu'on pourra en tirer quant à l'évolution des faunes et des flores. Alors, une fois que ces précautions sont prises, quelle a été la biodiversité faunistique sur Paris par le passé? En fait, les premiers restes archéozoologiques datent du 4e et du 5e millénaire avant Jésus-Christ, et on observe une faune de renards roux, de loups, de chiens domestiques, d'ours bruns, de blaireaux, de chats forestiers, de castors, de lièvres, de sangliers, de cerfs, de chevreuils, de fouines et de martres. Certains animaux, vous le verrez par la suite, existent toujours sur Paris, comme la fouine et la martre. D'autres, comme l'ours ou le blaireau, ont disparu depuis longtemps de Paris. Au IIIe siècle seulement, après Jésus-Christ, on a les premières observations de chats domestiques. Au XIIe siècle seulement, le lapin et le rat noir, qui sont en fait des animaux introduits, et au XVIe siècle seulement, la souris et le mulot. Mais vous pouvez voir que dans ces informations historiques que l'on a à partir des restes archéozoologiques, il n'y a que des informations sur les mammifères, rien sur les autres groupes. Alors en préparant cette conférence, je me suis dit, mais peut-être qu'après tout, au Muséum d'Histoire Naturelle, on a des documents conservés sur la faune de Paris, on a des restes d'animaux qui ont été naturalisés par le passé sur Paris. Je suis allé trouver mon collègue, Michel Tranier, qui est le responsable des collections du muséum. Je lui ai demandé « qu'est-ce que tu as sur Paris ?» Il a cherché dans les bases de données, et en fait, force a été de constater qu'il y avait très peu d'informations sur Paris, très peu d'animaux sur Paris. Là, je vous présente toutes les informations que nous avons sur un groupe particulier, pour lequel on a beaucoup d'informations, paradoxalement, c'est le groupe des chauves-souris. Donc, c'est l'ensemble des informations disponibles au muséum sur ce groupe-là, au plan historique, par rapport au site de Paris. Mais vous pouvez voir qu'il y a très peu d'informations, et de manière très surprenante, le spécimen le plus ancien conservé ne date que de 1839. Donc, les spécimens anciens ne nous fournissent pas non plus beaucoup d'informations sur la faune de Paris au cours des siècles passés. Qu'en est-il pour la flore? Pour la flore, on retrouve les deux sources d'informations, à savoir les publications, donc la littérature, et puis les données de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors l'herbier du muséum, c'est le plus gros herbier du monde, gigantesque, 10 millions d'échantillons, 1 million de spécimens pour la France et pour Paris. Mais pour Paris, on est allé chercher et on a regardé le plus vieil herbier qui est conservé, qui est celui de Jean Giraud, qui a vécu entre 1538 et 1608 et qui contient quelques plantes françaises. Et malheureusement, il contient bien des plantes d'une ville, mais pas de Paris, de Lyon. Et dans l'herbier du muséum, comme pour les spécimens animaux, il y a très peu d'informations sur la flore de Paris. Heureusement, pour la littérature, ce n'est pas la même chose. Pour la littérature, nous disposons d'une abondante littérature sur Paris, et le premier écrit date du XVIe siècle. Il a été publié aux alentours de 1565 par Charles de Lécluse, qui a séjourné à Paris entre 1561 et 1562, et c'est lui qui, pour la première fois, a publié les premières observations de flore sur Paris, et il a trouvé quelques espèces dans le bois de Boulogne et à la plaine de Grenelle. Mais véritablement, le premier document de qualité sur la flore de Paris a été publié au XVIIe siècle par Jacques-Philippe Cornu en 1635, c'est l'Enchiridion Botanicum Parisiense, où il décrit 461 espèces sur Paris et 38 sites peuvent être localisés avec une précision raisonnable sur Paris. Et sa description est assez savoureuse, parce qu'il écrit par exemple « Si vous avancez un peu plus loin dans la direction du bois peu éloigné de la ville que l'on nomme le bois de Boulogne, vous rencontrerez dans les anciennes carrières assez nombreuses de ce côté et sur les amas de pierre, Alissum calicinum, Medicago orbicularis, Linaria minor, et dans les haies, Rhamnus cathartica, en fait des espèces qui ont disparu depuis Paris depuis bien longtemps. » Au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, en 1698, un ouvrage majeur publié par Joseph Piton de Tournefort, qui a été professeur au Jardin des Plantes, l'histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Alors, c'est une description qui est organisée en 6 herborisations concentriques autour de Paris. 2 points intéressants. D'abord, c'est qu'il décrit des milieux qui étaient des milieux naturels, des vignes, des prés, des jardins et des bois. Pour lui, Chaillot, la colline de Chaillot, c'était déjà exotique par rapport à Paris. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit avec précision les stations où il va trouver ces espèces. Par exemple, cette espèce, Ophioglossum vulgatum, qui est une petite fougère spécialisée, caractéristique des milieux humides, eh bien, il l'a trouvée à côté du cours La Reine, dans le bois qu'on appelle les Champs-Élysées. Évidemment, cette espèce a disparu depuis bien longtemps du bois des Champs-Élysées. Elle a même disparu depuis bien longtemps de la plupart des stations d'Île-de-France. Et c'est une espèce qui est en régression en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose là d'une source d'information très précise sur cette espèce et sur bien d'autres. Au XVIIIe siècle, Sébastien Vaillant va publier son Botanicon parisien C, où il va décrire 248 espèces sur Paris et on peut, avec précision, localiser 557 sites. Mais vous pouvez voir sur la carte qui fait une synthèse de l'ensemble des sites qu'il a observés qu'il n'a pas du tout prospecté les arrondissements du nord de Paris. Il s'est contenté de prospecter la Seine et les deux bois. C'est véritablement au XIXe siècle qu'on va avoir les sources d'informations les plus importantes sur Paris, avec 2 ouvrages majeurs. Premier ouvrage publié en 1843 par François-Victor Mérat, qui publie la Revue de la flore parisienne, où il va décrire près de 900 espèces sur Paris, et on va pouvoir localiser avec précision 471 sites. Mais l'ouvrage le plus important est sans conteste celui de Joseph Vallot, qui publie en 1884 un ouvrage au titre évocateur, L'essai sur la flore du pavé de Paris, limité aux boulevards extérieurs, ou catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les rues et sur les quais, suivi d'une florule des ruines du Conseil d'État. Ce qui est intéressant de voir, c'était le Conseil d'État de l'époque, ce qui est intéressant de se voir, c'est que Vallot s'est intéressé spécifiquement au site de Paris et donne des informations très précises sur le site de Paris. C'est notre première référence assez exhaustive sur la flore de Paris. Et je n'ai pas pu hésiter à faire le jeu de mots, savoir que Vallot, il n'a pas trouvé sous les pavés la plage, mais par contre, il a trouvé entre les pavés la flore. Alors, maintenant que nous connaissons les sources d'informations historiques sur Paris, qu'on connaît à peu près ce qu'il y a eu sur le site de Paris au point de vue faune et flore, qu'en est-il aujourd'hui de la biodiversité actuelle? Alors, quelles sont les sources d'informations actuelles sur Paris? Ce sont des sources, comme vous le pensez, qui sont multiples, mais qui sont souvent peu reliées, et il est très difficile aujourd'hui encore de faire une véritable synthèse sur la biodiversité à Paris. Bien sûr, aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, la littérature spécialisée sur la description de la biodiversité est en explosion. Et cette littérature, elle peut être de portée internationale, nationale ou locale. Il y a des revues spécialisées sur Paris qui sont très intéressantes et qui sont une source d'information importante. La deuxième source d'information provient des observations des associations de protection de la nature qui, à partir des années 70, se sont beaucoup intéressées à Paris et ont fourni un nombre considérable d'informations. Il y a par exemple les Naturalistes parisiens, une association qui est très active sur Paris-Île-de-France, qui permet de générer beaucoup de données. Sur les oiseaux, un organisme comme le CORIF est aussi une source de données très très importante. Ensuite, il y a les données de Paris Nature, un service de la Direction de l'Environnement de la mairie de Paris, qui à partir des années 1985 a généré un nombre considérable d'inventaires sur Paris, mais essentiellement sur le Paris non urbanisé, c'est-à-dire sur les bois, les jardins, etc. Et puis, il y a les suivis des inventaires beaucoup plus scientifiques qui sont faits d'une part par le Conseil supérieur de la pêche et le CEMAGREF sur les poissons de la Seine, où on dispose de données assez intéressantes sur l'évolution des poissons de la Seine. Les données issues des plans nationaux d'action sur les oiseaux, et en particulier sur le moineau domestique, le faucon cresserelle, l'hirondelle des fenêtres et le martinet noir. Et puis des données sur la flore qui ont été collectées par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, qui dispose aujourd'hui d'à peu près 35 000 informations sur la flore de Paris. Donc vous voyez des données qui sont quand même assez importantes. Et bien sûr, chaque fois qu'on parle de biodiversité, la première question que posent les gens, c'est combien d'espèces ? En fait, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Parce qu'il faut savoir combien d'espèces où, combien d'espèces à quelle époque, et de quelle espèce est-ce qu'on parle ? Alors où, là, il n'y a pas trop de soucis, Paris c'est bien délimité. Époque, déjà il y a un petit souci, est-ce qu'on parle de la faune du XXe siècle ou est-ce qu'on parle de la faune du XXIe siècle ? Et puis ensuite, c'est très difficile d'avoir des observations, d'avoir des dénombrements sur des groupes qui sont peu étudiés, comme par exemple les invertébrés. Donc, ces chiffres sont à manier avec beaucoup de précautions. Néanmoins, on a quand même quelques chiffres. À Paris, on peut considérer aujourd'hui, donc au XXIe siècle, qu'il existe 25 espèces de mammifères, ce qui est à relier aux 139 espèces de la faune française, 90 espèces d'oiseaux, dont 49 sont nicheuses sur Paris, c'est-à-dire se reproduisent régulièrement sur Paris, ce qui est à relier aux 545 espèces d'oiseaux en France, 3 espèces seulement de reptiles, par rapport aux 41 qui existent en France, 9 espèces d'amphibiens, par rapport aux 33 françaises, et 28 espèces de poissons dans la Seine. Ça, ce sont les données fiables. Puis après, il y a les invertébrés. Sur les invertébrés, très peu de données, en tout cas des données incomplètes. Le seul inventaire qu'on dispose provient de Paris Nature, qui a dénombré au moins 1052 espèces d'invertébrés sur Paris. Mais il est très probable que ce chiffre est sous-estimé, même considérablement sous-estimé, quand on le rapporte aux 36 000 espèces d'invertébrés qui existent en France. Alors en comparaison, qu'en est-il pour les plantes ? Pour les plantes supérieures, le dénombrement il est à peu près exhaustif. On dénombre sur Paris 1382 espèces de plantes supérieures par rapport aux 6 000 françaises. Par contre, pour les plantes inférieures, très peu de données, des données uniquement sur les champignons, au moins 400 espèces de plantes inférieures sur Paris. Ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr, la biodiversité à Paris est moins importante qu'ailleurs en France, mais qu'elle est loin d'être nulle, et en particulier pour les grands groupes de vertébrés que l'on connaît bien, cette biodiversité est quand même assez conséquente. Comment se répartit cette biodiversité faunistique à Paris ? Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vous parlerai pas des invertébrés où c'est très difficile, je ne vous parlerai pas non plus des oiseaux où c'est un peu plus compliqué, où ça n'aurait pas beaucoup de sens, les oiseaux se déplacent dans les différents arrondissements de Paris. Je vais vous parler de trois groupes qui sont bien documentés, trois groupes de vertébrés, les mammifères, les reptiles et les amphibiens, avec des répartitions qui sont totalement différentes. Les mammifères sont présents dans tous les arrondissements de Paris. Ce n'est pas très étonnant, ils se déplacent facilement et il y en a partout. Par contre, les reptiles sont beaucoup plus localisés et ils sont en fait localisés aux arrondissements périphériques de Paris et aux Deux-Bois. Un seul arrondissement du centre comporte des reptiles, le 5e arrondissement. Les amphibiens sont encore plus localisés que les reptiles puisqu'on ne les trouve que dans trois arrondissements, deux périphériques et un central, et dans les Deux-Bois. Donc vous voyez qu'au point de vue répartition, ces trois groupes de vertébrés ne se répartissent pas du tout de la même façon sur Paris. Si on descend à un niveau plus bas et qu'on examine la répartition de différentes espèces pour un même groupe, et là en l'occurrence pour les mammifères, on a pris trois exemples différents. Une espèce répandue partout, le rat sur mulot, présent dans tous les arrondissements de Paris, et on peut dire qu'à Paris il y a un rat par habitant, donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. Et à côté de ça, deux espèces très intéressantes, en fait deux espèces de chauves-souris qui n'ont pas du tout la même répartition sur Paris. La pipistrelle commune, qui est assez fréquente sur Paris, présente dans des arrondissements centraux et périphériques, et bien sûr dans les Deux-Bois, et la noctule commune, qui elle n'est présente que dans les Deux-Bois. Et pourtant, ce sont deux espèces de chauves-souris. En fait, c'est probablement dû au régime alimentaire de ces deux espèces, qui n'est pas tout à fait le même. Qu'en est-il pour les amphibiens et les reptiles ? Un exemple de répartition d'un amphibien, l'alite accoucheur, donc un petit crapaud, qui lui est présent dans le seul arrondissement de Paris, et encore dans un secteur très localisé, puisque la seule population de Paris de ce crapaud vit dans le jardin des plantes. Elle y vit de manière tout à fait régulière, elle se reproduit, et c'est une espèce qui est très bien présente dans le jardin des plantes, mais localisée dans un secteur très précis. Un autre exemple, le lézard du muraille, qui lui est présent dans les arrondissements périphériques essentiellement et dans les Deux-Bois. Et en fait, dans les arrondissements périphériques, le lézard du muraille vit essentiellement dans le chemin de fer de la petite ceinture, où il trouve des zones favorables à sa nourriture et à sa reproduction. Vous pouvez voir que sur le nord de Paris, on ne dispose pas d'informations sur la présence du lézard des murailles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, mais c'est probablement dû à un déficit de prospection. On n'a vraisemblablement pas assez prospecté la petite ceinture dans le nord de Paris. Il est vraisemblable que le lézard de Mirail se trouve sur tous les arrondissements périphériques de Paris. Est-ce qu'on dispose de données quantitatives sur les populations d'animaux sur Paris? En fait, on dispose de très peu d'informations quantitatives, et les seules informations dont on dispose avec beaucoup de fiabilité, c'est sur les oiseaux. Je vais vous parler de deux oiseaux qui sont assez différents, le faucon cresserel, et ensuite je vous parlerai de l'hirondelle. Alors, le faucon cresserel, c'est donc un petit rapace, qui est présent en France entre 50 000 et 100 000 couples nicheurs par an, suivant les années. Et c'est une espèce qui est fréquente, qui est présente sur Paris. Les premières données qu'on a sur Paris sont assez anciennes. Elles datent de 1840, avec les premières citations à Notre-Dame. En 1986, le CORIF, donc c'est une association spécialisée sur les oiseaux, a effectué une enquête sur Paris avec un dénombrement de la plupart des couples nicheurs de faucons cresserels sur Paris. Et vous pouvez voir que la synthèse de ces dénombrements montre que le faucon cresserel sur Paris est présent dans les arrondissements centraux, dans les arrondissements périphériques et dans le bois de Vincennes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est présent dans les arrondissements centraux, dans des bâtiments assez emblématiques, comme Notre-Dame, plusieurs couples de faucons cresserels nichent à Notre-Dame, mais aussi dans un bâtiment qui est susceptible, a priori, de donner moins d'accès à cet animal-là, la Tour Eiffel. En fait, le faucon cresserel est présent dans la plupart des monuments de Paris, puisqu'il est aussi présent au Sacré-Cœur. Ce qui est également intéressant de voir, c'est que les effectifs de cette espèce de faucon ont progressé entre 1987 et 1999, puisqu'on est passé d'environ 17 couples nicheurs observés en 1987 à 33 couples nicheurs observés en 1999. Alors, un petit bémol, il n'est pas sûr que l'inventaire de 1987 ait été fait de manière parfaitement homogène et rigoureuse sur Paris, et il est possible que l'augmentation ne soit pas aussi importante que celle-là. Néanmoins, l'augmentation existe. C'est une espèce qui est en voie d'augmentation sur Paris, ce qui est quand même assez intéressant. Un autre exemple d'espèce sur laquelle on a des données quantitatives, l'hirondelle des fenêtres. Là aussi, une enquête effectuée par le CORIF et la Ligue de protection des oiseaux entre 1993 et 1994 a montré qu'il y avait à cette époque 993 nids de l'hirondelle des fenêtres sur Paris, soit une population d'à peu près 2000 individus, ce qui est loin d'être négligeable. Et ce qui est très intéressant d'examiner, c'est la répartition de ces hirondelles des fenêtres à Paris. Vous pouvez voir que l'essentiel des hirondelles des fenêtres à Paris est localisé dans l'ouest de Paris, en fait, le Paris haussmannien. Un seul arrondissement de l'est de Paris abrite l'hirondelle des fenêtres, c'est le 19e arrondissement, d'ailleurs avec la plus grosse colonie, qui est localisée à la Grande Halle de la Villette. Ce type de répartition pose quand même quelques questions. Pourquoi ce type de répartition? Et en fait, on pense qu'il y a deux réponses. C'est d'abord que l'hirondelle et fenêtres trouvent dans le Paris haussmannien des immeubles très propices à l'accrochage de ces nids. Les sculptures, les balcons qui existent dans les immeubles d'Haussmann sont des points d'accroche pour les nids des hirondelles et fenêtres, alors que l'est de Paris est beaucoup plus pauvre par rapport à ce type d'architecture. Quant à l'explication de la présence de l'hirondelle dans le 19e arrondissement, il est vraisemblable que c'est dû au fait que l'hirondelle trouve dans les jardins qui sont autour de la Villette de la boue nécessaire à la confection de ses nids qu'elle ne va pas trouver ailleurs. Donc une répartition de l'hirondelle et fenêtres qui est assez intéressante sur Paris. On possède également sur Paris ce qu'on appelle des séries temporelles de données, c'est-à-dire des données sur les effectifs des populations qui ont été recueillies au cours du temps et qui permettent de se faire une idée à peu près exacte de l'évolution du nombre d'individus de chaque espèce. Deux exemples assez contradictoires. Le gobe-mouche gris, c'est un oiseau, et c'est probablement l'oiseau le plus rare de Paris. Et on a assisté au fil des 20 dernières années à une diminution des effectifs de cette espèce sur Paris, que l'on observe aujourd'hui uniquement en deux endroits de Paris, au cémetière du Père-Lachaise et au Butte-Chaumont. Donc une espèce pour laquelle il y a un déclin très net des populations. À côté de ça, une espèce qui est probablement en augmentation, la fouine. Alors on possède des données depuis 1974 qui montrent un accroissement régulier des populations de fouines sur Paris. Alors là aussi, quelques bémols, il faut faire attention aux données. Vous avez vu d'une part la confusion qu'il pouvait y avoir entre la fouine et la martre. Et puis, vraisemblablement aussi, on a des observations du même individu qui a été observé à quelques heures d'intervalle et qui sont comptabilisées comme plusieurs individus différents. Néanmoins, on a des données qui permettent quand même de dire que la fouine est en augmentation sur Paris. Deux raisons. D'une part, il est probable que les nombreuses populations de fouines de banlieue aient servi de réservoir et qu'aujourd'hui les fouines sont en train de migrer de la banlieue vers Paris. Et d'autre part, que la politique de création des espaces verts dans Paris, à partir des années 70, en créant des petits jardins de proximité, a favorisé l'habitat de cette espèce, qui trouve là un environnement favorable pour sa nourriture, parce qu'elle va y trouver des fruits pour son alimentation frugivore, et aussi des petits animaux pour son alimentation carnée. Donc, une espèce qui est en voie d'augmentation sur Paris. Pour l'instant, je vous ai parlé uniquement des espèces autochtones sur Paris, donc des espèces pour lesquelles on a des informations depuis le XVIIIe siècle. Qu'en est-il des espèces introduites sur Paris ? Alors, plusieurs catégories d'espèces introduites sur Paris. Il y a tout d'abord les espèces françaises, qui n'existaient pas à Paris et qui ont été introduites par l'homme. Et le meilleur exemple, c'est les termites. En fait, les termites sont arrivées à Paris, comme beaucoup de gens, par le train, à la gare d'Austerlitz. Simplement, elles sont arrivées dans un chargement des pins des Landes, et à partir de là, elles ont colonisé de manière un peu concentrique les arrondissements de Paris. Et le premier arrondissement colonisé par les termites a bien sûr été le 13e arrondissement. Mais les termites ont été dispersées de manière surprenante grâce aux travaux du périphérique. Lors du creusement du périphérique, qu'est-ce qui s'est passé ? On a extrait d'énormes quantités de gravats qui ont été répartis un peu partout dans Paris. Et dans ces gravats, il y avait des bois infectés par les termites. Mais on a répandu comme ça les termites dans Paris. On considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2000 immeubles de Paris qui sont touchés par les termites. Donc ça, c'est une espèce qui est autochtone en France, mais qui n'existait pas à Paris et qui est arrivée à Paris du fait de l'homme. Beaucoup d'autres espèces sont arrivées à Paris comme ça, importées par l'homme. Et il y a eu tout un cortège, par exemple, d'espèces qui sont arrivées à Paris lors de la plantation des bois de Vincennes et de Boulogne au XIXe siècle par Alphand. Alphand est l'architecte qui a permis la plantation de ces bois. Il a planté des résineux. Ces résineux venaient de province. Dans ces bois, il y avait toute une faune. Dans ces résineux, il y avait toute une faune qui venait de province et qui n'existait pas à Paris, qui s'est naturalisée sur Paris et qui aujourd'hui existe dans tous les arrondissements de Paris. Et puis, à côté des espèces françaises, il y a les espèces exotiques et des espèces exotiques acclimatées. Et le meilleur exemple d'espèces exotiques acclimatées à Paris aujourd'hui, c'est la tortue de Floride. On peut dire que Paris a été véritablement l'objet d'une invasion passive de cette espèce animale à partir des années 90. Vous avez peut-être acheté des petites tortues de Floride dans les animaleries, et puis vous savez que si vous les nourrissez bien, eh bien elles grandissent, elles peuvent atteindre des poids de 1, 2, 3 kilos, et à ce moment-là, eh bien elles mordent, et on va les relâcher. On les relâche dans les mares, on les relâche dans les étangs, et aujourd'hui, eh bien, plusieurs arrondissements de Paris hébergent des populations de tortues des Florides qui sont bien viables. Il y a deux grosses populations en particulier dans les deux bois de Paris. Mais la tortue de Floride, ce n'est pas le seul exemple d'animal exotique acclimaté sur Paris. Un autre exemple, l'élante, le bombyx de l'élante, pardon, c'est un papillon qui a été introduit au XIXe siècle parce qu'on espérait faire de la soie à partir de son cocon. Il a été introduit dans plusieurs régions françaises comme le bassin d'Arcachon, l'Alsace et la Provence. Et il a été introduit avec la plante qui lui sert d'hôte, qui est l'élante. Eh bien, aujourd'hui, cette espèce, le bombyx de l'élante, a disparu en France, partout, sauf à Paris, où il prospère bien, parce que probablement, il y a de nombreux arbres d'alignement de Paris qui sont justement des élantes. Et on connaît comme ça beaucoup d'espèces invasives qui aujourd'hui sont bien acclimatées à Paris. Puis bien sûr, Paris est aussi une plaque tournante pour l'importation illicite de beaucoup d'espèces d'animaux de compagnie. Et je ne travestirai pas trop la vérité en disant qu'il n'est pas rare de voir arriver dans les aéroports des valises entières de perruches, de perroquets, de caméléons. Bien sûr, la plupart de ces animaux arrivent morts et les seuls qui subsistent vont en général au Jardin des Plantes ou au zoo de Vincennes et vivent très peu de temps. Donc c'est un commerce qui est absolument préjudiciable à la conservation de la biodiversité. Puis, Paris est aussi l'objet de lâchers d'animaux par les gens. Vous savez qu'il y a une nouvelle vague d'animaux de compagnie, de plus en plus importante, et qu'il n'est pas rare que des gens possèdent chez eux des singes et puis des animaux un peu plus exotiques. Mais là aussi, quand le singe il grandit, il commence à mordre, il mord les enfants, et puis on va le relâcher. Et comme ça, très souvent, il nous arrive au muséum, par le biais du zoo de Vincennes, beaucoup d'espèces d'animaux exotiques qui sont capturées dans les bois, et même en plein centre de Paris. Et l'animal qui est le plus relâché, c'est le macaque. Mais à côté de ces singes, on a aussi observé, relâché, des fennecs, des genettes, des écureuils de Corée et aussi des maquis. Les maquis sont des lémuriens de Madagascar. En général, ces animaux ne vivent pas de manière très très importante. Au bout de quelques semaines, ils sont capturés ou ils finissent par mourir. Et donc, ce ne sont pas des éléments qui perturbent trop la biodiversité autochtone. Mais néanmoins, ils existent quand même. Et puis à côté de ça, il y a des observations surprenantes d'animaux parfaitement autochtones sur Paris. Premier animal qui est assez surprenant, celui-là. Vous voyez, son aire de répartition est assez importante sur Paris, puisqu'il est présent dans les arrondissements périphériques, mais aussi dans certains arrondissements centraux. Si vous voulez de bonne heure, et si vous avez beaucoup de chance, vous pouvez même le voir à la station de métro République. Et on a des observations de cet animal le long des voies ferrées, sur la petite ceinture, dans le métro, enfin pas dans les wagons, hein, sur les voies de métro, et aussi à l'héliport de Paris. Alors cet animal qui quand même est assez répandu, vous l'avez tous deviné, c'est le renard. En fait, Paris héberge une population de renards à peu près stable. Et c'est assez intéressant parce que nous verrons tout à l'heure, quand nous examinerons comment d'autres capitales européennes gèrent la biodiversité, nous verrons que d'autres capitales européennes se posent aussi la question de la gestion des populations de renards. Mais bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est ça. Nous sommes au parc Monceau en 1973, donc il n'y a pas très longtemps. Nous sommes en septembre 1973 dans un parc urbain, clos. Quand même, il est très difficile de se cacher sans se faire remarquer. Eh bien, en 1973, au parc Monceau, du 1er septembre au 14 novembre, a vécu en toute liberté sans que personne ne le remarque, et c'est ça qui est quand même intéressant. Vous l'avez tous deviné, c'était un loup. Voilà. Donc, un loup a vécu dans ce parc en 1973. Alors, quelle est l'histoire de ce loup ? En fait, c'est un loup qui avait été acheté par un couple de cafetiers de la rue de Rome. Il avait été acheté à Clermont-Ferrand. Et puis, il s'est échappé à l'occasion d'un cambriolage. Vous voyez, il n'a même pas défendu le café, il s'est échappé. Il a vécu pendant plusieurs mois dans le parc Monceau. Et au bout de quelques mois, il en a eu marre. Il s'est échappé du parc Monceau. Et il est allé agresser une concierge dans la rue d'Amsterdam qui a appelé police secours. Police secours est venue, a essayé de capturer cet animal qu'il croyait être un chien. Et ce n'est que quand ils ont amené l'animal au refuge de la SPA à Gennevilliers, où le vétérinaire l'a soigné, qu'il a dit « Ah ben non, c'est pas un chien, c'est un loup ». Alors ce loup, il s'appelait Ida, et à l'époque, il avait même fait l'objet de la Une, du Parisien Libéré et de France Soir. Alors, cette observation, elle peut vous paraître anecdotique. Et en fait, pas tant que ça. Pour nous, c'est pas très surprenant, parce qu'on sait que le loup peut être un animal urbain. Bon, là, bien sûr, c'est un loup domestiqué. Mais on sait que des loups sauvages peuvent être des animaux urbains. On sait par exemple qu'une troupe de loups a traversé en plein jour la place centrale de Gênes, en Italie, sans être vue. On sait aussi qu'un loup vit en plein Bucarest aujourd'hui. Et on sait aussi que les loups fréquentent les décharges périurbaines en Espagne. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux réputés farouches peuvent approcher de près l'homme et qu'ils ne sont pas vus. Ce qui pose quand même quelques questions, d'une part par rapport à tout l'imaginaire qui s'est développé sur le loup en France, la bête féroce, la bête du Gévaudan, etc. Vous voyez qu'on peut côtoyer des loups sans les savoir. Et puis aussi, ça pose quelques questions par rapport au problème que pose aujourd'hui la recolonisation des Alpes françaises par les populations de loups en provenance des Apennins. Ça suscite sur place beaucoup de polémiques. On a peur du loup. Vous voyez, Paris a hébergé un loup en 1973 sans être vu. Alors, venons maintenant à des êtres vivants un peu moins problématiques. Parlons de plantes. Quelle est la biodiversité au point de vue floristique sur Paris aujourd'hui? Là, on a beaucoup plus de documentation que sur les animaux. On a des recensements quasi exhaustifs sur les arrondissements parisiens. Deux informations. D'abord, ça ne vous étonnera pas, la biodiversité floristique augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur de Paris. Les arrondissements du centre de Paris sont les plus pauvres en nombre d'espèces de plantes et les arrondissements périphériques sont les plus riches en nombre d'espèces de plantes. Deuxième information, c'est que les deux bois abritent à peu près 300 espèces de plantes supérieures, ce qui est bien plus important que la plupart des communes de banlieue. Enfin, Paris abrite aussi des espèces protégées. Il y a 5 secteurs de Paris qui abritent des plantes protégées, dont la biodiversité floristique sur Paris, non seulement est loin d'être négligeable, mais même remarquable par rapport à la petite couronne de l'Île-de-France. Un petit bémol, comme toujours, la prospection n'est pas totalement homogène. On a fait la synthèse de toutes les informations contemporaines dont on dispose sur Paris, ce qui est schématisé dans la carte qui est en bas, et vous pouvez constater que là aussi, qu'est-ce qu'on observe? des secteurs très privilégiés au point de vue observation comme la Seine, les canaux, bien sûr les bois, et puis aussi quelques petits secteurs dans le centre de Paris. Par contre, des arrondissements pour lesquels il y a très peu d'informations, le 15e arrondissement et le 17e arrondissement. On a également fait la compilation de toutes les informations du plus grand, enfin du botaniste qui a le plus prospecté Paris au XXe siècle, qui était Paul Jauvet. Donc on a dépouillé toutes les publications qu'il a faites sur la flore de Paris, de manière informatique. On a fait des synthèses, et qu'est-ce qu'on constate par rapport aux informations de Jauvet? Eh bien, on constate que lui aussi, il a essentiellement privilégié comme observation la Seine, les cimetières du nord de Paris, et un peu la petite ceinture. Qu'en dehors de ça, il y a des arrondissements qu'il a très peu prospectés. Donc, un petit bémol quand même par rapport aux synthèses que l'on peut faire sur la biodiversité floristique aujourd'hui à Paris. Alors, Paris abrite aussi des espèces de plantes remarquables, deux catégories de plantes remarquables. D'abord, des espèces protégées. Paris abrite aujourd'hui 8 espèces protégées au plan régional, 4 d'entre elles sur les quais de la Seine. Il n'est pas rare de trouver des espèces protégées, en particulier cette fougère Thélipteris palustris sur les quais de la Seine, entre les pierres qui forment les murs des quais, et puis aussi dans les gazons et dans les murs de Paris. Malheureusement, les espèces protégées continuent à disparaître sur Paris, et la dernière disparition d'une espèce protégée qu'on a eue sur Paris, c'est la disparition de cette fougère, Gymnocarpium robertianum, une petite fougère qui vivait aux arènes de Lutèce. C'était la dernière station qu'on connaissait de cette espèce en Île-de-France, donc vraiment l'espèce était au bord de l'extinction en Île-de-France, et bien cette espèce a disparu à Paris dans les années 2000, probablement du fait d'un vandalisme. Donc vous voyez que même quand on est protégé sur Paris, on peut quand même disparaître. Deuxième type d'espèces remarquables au point de vue plante sur Paris, les espèces exotiques. De très nombreuses espèces sont arrivées sur Paris et se sont ensuite servies de Paris pour coloniser l'ensemble de l'Île-de-France et même parfois la France. Un exemple historique, le Buddleia, que vous connaissez tous, qu'on peut acheter dans la jardinerie, eh bien, c'est une espèce qui est très acclimatée au biotope parisien. On la trouve, par exemple, très abondamment dans les friches de la zone Tolbiac. Cette espèce est arrivée en France, en Île-de-France, à Paris, et ensuite a colonisé un peu partout toute la France. Ça, c'est un exemple historique. Un exemple beaucoup plus contemporain, cette espèce de plante, Cicimbrium myrio, le Vélaré. Toutes les informations qu'on a sur cette espèce sont quasiment concentrées sur Paris et sur la petite couronne, et on peut penser qu'à partir de Paris, eh bien, elle va coloniser de manière rayonnante toute l'île de France. Donc Paris est une plaque tournante pour des invasions biologiques. Alors, à partir de toutes ces données, est-ce qu'on peut essayer d'établir des bilans et dégager des tendances quant à l'évolution de la biodiversité? Comme je vous l'ai dit, on ne le fera que pour les espèces qui sont bien documentées, et on ne le fera que pour les vertébrés. Premier groupe de vertébrés, les mammifères. 49 espèces de mammifères autochtones au XVIIIe siècle, 20 espèces de mammifères autochtones seulement au XXIe siècle. Donc, une chute très importante de la biodiversité. Essayons de voir comment ça s'est produit. Au XVIIIe siècle, la faune de Paris est identique à la faune d'Île-de-France. On trouve à Paris le loup, le castor et dans la Seine, le marsouin. Donc, vous voyez, des gros animaux. Il y a des introductions anciennes, quand même, depuis le Moyen-Âge, le lapin, le rat surmulot et le rat noir. Au XIXe siècle, on va voir la disparition des grands mammifères, le loup et le cerf, et puis l'introduction du daim européen dans le bois de Vincennes. C'est véritablement au XXe siècle que va s'effectuer la chute de la biodiversité, avec une disparition d'à peu près 50% des espèces. Alors les causes sont multiples. D'une part, les dérangements. Les espèces de chauves-souris sont très sensibles aux dérangements, et au XXe siècle, les dérangements ont été plus importants que par le passé. Il y a eu des destructions organisées aussi, comme pour les carnivores et le castor. Il y a eu les barrages de la Seine qui ont empêché le marsouin de remonter jusqu'à Paris. Et puis, il y a eu la coupure des deux bois parisiens, bois de Boulogne et bois de Vincennes, des forêts périphériques d'Île-de-France qui ont empêché les grands ongulés de se déplacer entre les massifs forestiers. Au XXIe siècle, la chute de la biodiversité continue, avec la disparition d'espèces autochtones, comme le blaireau, le rat des moissons, le sanglier ou le chevreuil. Donc vous voyez des disparitions récentes de grands animaux. Et puis aussi la disparition d'espèces introduites, comme l'écureuil de Corée et le daim européen. Ce qu'il faut voir donc, c'est qu'au XXIe siècle, non seulement les espèces autochtones ont continué à disparaître, mais également les espèces introduites ont commencé à disparaître. Alors qu'en est-il pour les autres groupes de vertébrés? Chez les reptiles, 8 espèces au XVIIIe siècle autochtones, deux espèces seulement au XXIe siècle. Donc là aussi, une disparition importante. Mais avec des différences par rapport aux mammifères. D'abord, au XVIIIe siècle, la faune est aussi identique à celle d'Île-de-France et il n'y a pas d'espèces introduites de reptiles. Pourquoi ? Parce que les gens avaient préféré introduire des mammifères qui étaient plus utiles à eux que des reptiles. Donc, uniquement une faune autochtone au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, pas d'évolution par rapport au XVIIIe, et c'est une différence par rapport aux mammifères. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ben, tout simplement parce que les reptiles sont des animaux beaucoup plus petits, qui ont supporté beaucoup plus facilement les transformations d'Haussmann au XIXe siècle que les grands mammifères. La chute de la biodiversité va avoir lieu aussi au XXe siècle, puisque 65% à peu près des espèces vont disparaître. Les causes sont un peu les mêmes, augmentation de la pression humaine, multiplication des chats, un facteur très néfaste aux espèces de reptiles, banalisation des milieux, et puis aussi introduction de prédateurs, comme la tortue de Floride, qui va décimer les populations de lézards autochtones. Au XXIe siècle, la chute de la biodiversité va continuer, puisqu'on a assisté dans les 10 dernières années à la disparition du lézard vert et de la couleuvre à collier. Les amphibiens vont avoir une évolution à peu près semblable à celle des reptiles, et vont passer de 16 espèces autochtones au XVIIIe siècle à seulement 7 espèces autochtones au XXIe siècle. 18e, la faune est identique à celle d'Île-de-France, pas d'introduction ancienne non plus. 19e, pas d'évolution par rapport au XVIIIe siècle. Et bien sûr, chute de la biodiversité au XXe siècle, avec disparition d'à peu près 50% des espèces, les causes à peu près identiques à celles des autres disparitions, avec quand même des choses assez intéressantes. Il est certain que les prélèvements de têtards par les enfants dans les mares et dans les étangs ont contribué à la disparition des espèces d'amphibiens dans ces mares et ces étangs parisiens. Donc attention aux enfants. Et puis il y a aussi l'introduction de prédateurs, plus nombreux que pour les reptiles, des poissons carnivores, très néfastes aux larves des amphibiens, et puis aussi la tortue de Floride. Bien sûr, disparition des milieux humides dans les bois. Au XXIe siècle, pas de nouvelles disparitions d'espèces d'amphibiens. Chez les invertébrés, je vous l'ai dit, très peu de documentation. Néanmoins, on a quelques documentations chez les insectes et chez deux groupes d'insectes, les lépidoptères ropalocères, qui sont les papillons de jour, et les orthoptères. On ne va pas détailler. Ce qu'il faut voir, c'est que là aussi, chez ces groupes-là, il y a une très forte diminution de la biodiversité entre le 19e et le 21e siècle, puisqu'il y a à peu près seulement 10 espèces de papillons de jour qui sont présentes aujourd'hui sur Paris. Donc ça, ce n'est pas nouveau, la disparition des espèces. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les seules espèces qui ont subsisté sur Paris, ce sont des espèces banales, peu exigeantes et en fait caractéristiques de milieux dégradés. Deux autres informations par rapport aux insectes, c'est qu'on assiste de plus en plus à des remontées d'espèces méditerranéennes à la faveur du réchauffement climatique, qui maintenant s'observent assez fréquemment sur Paris, et que bien sûr, il y a aussi un certain nombre d'espèces introduites d'insectes qu'on observe sur Paris. Donc, des migrations de faune qui sont assez intéressantes au XXIe siècle. Alors, maintenant que nous savons ce qu'il y a eu du temps des temps historiques, ce qu'il y a aujourd'hui, quel avenir pour la biodiversité à Paris ? Alors, bien sûr, il y a les mesures de protection qui existent. Les mesures de protection par la loi, il y a des décrets, des arrêtés qui définissent des listes d'espèces protégées. Par exemple, pour la flore, 8 espèces sont protégées au niveau régional sur Paris. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle des espèces qui entrent dans le cadre des SNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique, qui sont des zones de haut lieu de la biodiversité. Et quand on trouve des espèces qui sont déterminantes pour ces zones, normalement, l'administration est obligée de désigner des zones spéciales pour leur conservation. Il y a 2 espèces qui entrent dans ce cas-là, qui sont présentes sur Paris. Donc, il y a des mesures réglementaires qui s'appliquent aux espèces sur Paris. Mais on peut quand même se demander quelle est la pertinence de ces mesures réglementaires. D'une part, parce que c'est vrai, les populations d'espèces protégées ne représentent pas d'enjeu de conservation par rapport à l'ensemble des populations franciliennes. Il est vraisemblable qu'au lieu de s'acharner sur quelques espèces à Paris, il vaudrait mieux préserver des milieux plus intéressants en Île-de-France. Ça, c'est le premier problème. Deuxième question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux protéger des espèces, et on a vu ce que ça donnait pour la petite fougère qui a disparu aux arènes de Lutèce, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux protéger des milieux de manière plus efficace, où les espèces se trouveraient des conditions de vie beaucoup plus favorables. Enfin, je crois qu'il faut être aussi raisonnable, même quand on parle de protection de la biodiversité, Paris c'est quand même avant tout un espace d'habitation pour les gens, et je crois qu'il faut resituer ces mesures réglementaires dans le cadre plus vaste qu'on appelle le développement durable. Donc voilà pour les protections des espèces. Est-ce qu'il y a des protections d'espace sur Paris ? Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de zone qui soit protégée de manière réglementaire sur Paris. Il faut signaler quand même une initiative de la direction des parcs et jardins de la ville de Paris qui a mis en réserve deux enclos, ce qu'ils appellent des réserves ornithologiques, bien que ça n'ait pas de signification légale, mais en fait c'est efficace, c'est ça qui est intéressant. Première réserve dans le bois de Boulogne, 3 hectares en milieu boisé, une réserve qui date de 91, et deuxième réserve dans le bois de Vincennes, 2 hectares en zone humide qui date de 98. Eh bien, bien que ça ne soit pas des lieux protégés de manière réglementaire, on peut penser que les oiseaux y trouvent là des conditions favorables à leur expansion. Bien sûr, il existe des enjeux pour la conservation de la biodiversité à Paris. Alors, les enjeux sont multiples, on va essayer de se polariser sur quelques-uns. Premier problème qui se pose, c'est le problème génétique des populations parisiennes. Alors, pourquoi ? D'abord parce que les populations parisiennes sont soumises à un isolement très important, en particulier pour les espèces peu mobiles, d'amphibiens, de reptiles et de petits mammifères, qui en général restent localisés dans le jardin, dans la cour où elles se trouvent, et ne vont pas migrer dans tout Paris. Donc ces espèces vont être localisées, et à terme, il n'y aura pas d'échange génétique entre les différentes populations, qui vont évoluer de manière un peu indépendante, qui vont donc se reproduire en toute consanguinité, et on assistera probablement à un problème génétique de ces populations qui ne peuvent plus se mélanger. Donc ça, c'est le premier problème qui se pose, et on pense que ça se pose pour quelques espèces comme les taupes, les belettes, les écureuils et les campagnols. Deuxième problème génétique qui se pose par rapport aux populations parisiennes, ce sont les introductions de populations de la même espèce, mais d'origine différente, qui vont modifier la diversité génétique de ces populations. Alors, des introductions volontaires ou involontaires. Et le meilleur exemple que l'on ait, et qui est très bien documenté, c'est sur le lézard des murailles. Le lézard des murailles est connu de populations autochtones, je vous l'ai dit, dans un certain nombre d'arrondissements de Paris et dans les Deux-Bois. Eh bien, on sait que sur Paris, il y a eu 3 introductions de populations de lézards des murailles avec des individus venant d'origines complètement différentes. Dans l'île aux Cygnes, donc dans le 15e arrondissement, on sait qu'il y a eu une introduction. Malheureusement, on ne connaît pas l'origine. Donc, introduction d'origine inconnue. Dans le Jardin des Plantes, très surprenant, une introduction dont l'origine se situe en Bulgarie. Donc, vous voyez, des populations qui n'ont pas grand-chose à voir avec les populations parisiennes. Et enfin, à la caserne de gendarmerie du bois de Vincennes, il y a une introduction de lézards des murailles provenant de Bourgogne. Eh bien, on peut penser que ces introductions d'animaux venus d'horizons complètement différents vont provoquer à terme une modification de la structure génétique des populations de cette espèce. Quelques mesures sont aujourd'hui prises pour essayer d'enrayer la perte de biodiversité sur Paris. Il y a eu un effort très important de la part de la direction des parcs et jardins pour recréer des milieux, particulièrement pour les amphibiens, avec la création de mares dans de nombreux jardins de Paris. Il y a eu aussi des réintroductions d'espèces ou de populations. Pour les mammifères, le hérisson, par exemple, a été réintroduit dans quelques jardins de Paris. Et puis il y a eu aussi, donc, je vous ai parlé, de la réintroduction du lézard des murailles. De très nombreuses introductions également d'amphibiens dans les jardins, particulièrement dans les jardins Saint-Victor, dans le 18e arrondissement. Alors, quelle est l'influence des transformations de Paris au 21e siècle sur les populations de plantes et d'animaux ? J'ai choisi un exemple qui est assez bien documenté, celui des oiseaux, avec des influences assez différentes. Un facteur favorable, la politique d'augmentation du nombre d'espaces verts à Paris, conduit très nettement à une augmentation des populations d'un oiseau qui est le pigeon ramier. Pourquoi ? Parce que le pigeon ramier va trouver dans les parcs et jardins des conditions de vie favorables à son alimentation. Il est vraisemblable qu'on assiste également en parallèle à un déclin du pigeon bisé. Donc, transformation de Paris qui va dans une direction favorable pour l'augmentation des populations de cette espèce. À côté de ça, transformation de Paris qui vont dans des conditions défavorables, eh bien, la réduction des possibilités de nidification pour les oiseaux. Il est certain que les constructions modernes, qui sont beaucoup plus lisses, sans beaucoup de balcons, sans beaucoup d'aspérité, que les constructions du 19e siècle, défavorisent les oiseaux qui édifient des nids. Et il est vraisemblable que cette modification de l'urbanisme provoque la chute des populations d'un oiseau, qui est le choucas des tours, qui voit ses populations s'effondrer aujourd'hui sur Paris. Donc, vous voyez, 2 transformations de Paris qui vont dans des éléments différents par rapport à la conservation de la biodiversité. Alors, en comparaison, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux autres capitales européennes ? J'aurais pu vous parler de Berlin, où il y a un problème très intéressant de conservation de la biodiversité dans le No Man's Land qui séparait Berlin-Est Berlin Ouest de la République démocratique allemande, où s'est développée pendant des dizaines d'années une faune et une flore très intéressantes, qui est aujourd'hui soumise à une pression urbanistique très importante, vous vous en doutez. J'aurais aussi pu vous parler de Londres, avec ses forêts quasiment intra-urbaines, mais j'ai choisi de vous parler de deux capitales plus proches, Genève et Bruxelles. Genève, parce qu'ils ont une population de renards qui est assez importante, et on a vu qu'il y avait des renards sur Paris. En fait, la population de renards à Genève a explosé depuis la vaccination des renards contre la rage. Et aujourd'hui, la population de renards à Genève a une densité beaucoup plus importante que dans l'espace rural helvétique. Puisqu'à Genève, il y a à peu près 12 renards au kilomètre carré, alors que dans le monde rural, il n'y en a que 4 au kilomètre carré. Je parle des animaux. Hein. Ces renards urbains, ils ont complètement changé de comportement par rapport à leurs congénères qui vivent dans les milieux ruraux. D'abord, de chasseurs nocturnes, ils sont devenus chasseurs diurnes. Et puis même, ils ont perdu un peu leur habitude de chasser pour se nourrir essentiellement dans les décharges, donc ils sont devenus charognards. Et puis ils ont aussi changé de façon de giter, puisqu'ils ont abandonné l'habitude de creuser des terriers pour mettre leur nichée. Et en fait, ils vont mettre bas dans des entrepôts, des garages, des chantiers. Donc ils ont complètement changé de mode d'habitation, ce qui est assez intéressant. Genève est confrontée aujourd'hui à un véritable problème pour gérer ses renards, parce que quand même, sans renards en milieu urbain, ce n'est pas très évident. Et le Conseil d'État, qui est l'organe de gestion politique de Genève, a dû prendre une décision en 1999 pour établir un véritable plan de gestion légale de la population de renards sur Genève. On peut se demander à quand est-ce que le Conseil de Paris légiférera sur la population de renards sur Paris. Deuxième exemple, Bruxelles, un exemple complètement différent. Bruxelles a désigné à l'intérieur du territoire urbain des zones Natura 2000. Alors qu'est-ce que c'est le réseau Natura 2000 ? C'est un réseau européen qui est en train de se constituer dans tous les États de l'Union, qui vise à conserver de manière durable des espèces et des habitats prioritaires pour l'Union européenne. Et tous les pays de l'Union sont engagés dans un processus de désignation de ces zones, ce qui parfois provoque quelques conflits avec d'autres catégories socioprofessionnelles, comme les agriculteurs, les chasseurs, etc. Et vous avez certainement entendu parler des problèmes que pose la constitution du réseau Natura 2000 en France. Mais il faut savoir que Bruxelles, dont la ville de Bruxelles, a désigné 14% de son territoire en zone Natura 2000 protégée. Donc un effort considérable de protection de la biodiversité en plein centre de Bruxelles. Ces zones protégées en plein centre de Bruxelles abritent des espèces remarquables par rapport aux directives européennes. Il y a de nombreuses espèces d'oiseaux protégées au niveau européen qui vivent dans Bruxelles, de même pour les animaux et pour les plantes. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces zones-là offrent des conditions de vie idéales pour certains groupes, les chauves-souris, que ces espèces ne trouvent pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que les chauves-souris trouvent dans ces trois zones protégées un réseau très favorable à leur alimentation, à leur repos et à leur reproduction, avec des vieilles futaies, une zone de cours d'eau et des friches urbaines. Donc, en plein centre de Bruxelles, des espèces protégées au niveau européen. Là aussi, à quand Paris désignera des zones Natura 2000 pour la protection des chauves-souris. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais en fait vous faire passer un message qui est très simple. Je voudrais faire passer le message que la biodiversité, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Bien sûr, c'est l'affaire de l'État qui va définir des mesures réglementaires de protection. C'est l'affaire de la ville qui va forcément définir une politique de gestion de la biodiversité. Mais c'est aussi l'affaire des parents qui vont essayer d'éduquer leurs enfants à la biodiversité. L'affaire des enseignants qui vont essayer de sensibiliser les élèves à la biodiversité. C'est une affaire qui concerne chacun d'entre nous. Et c'est uniquement si ce thème est popularisé que l'on arrivera à faire passer les notions de menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité. Alors, pendant que je termine cet exposé, vous avez vu qu'il y a une animation visuelle qui est en train de recouvrir le Paris que vous connaissez, donc le Paris purement minéral des Champs-Élysées, par toutes les espèces dont je vous ai parlé au cours de cette conférence. C'est une photographie de la biodiversité à Paris. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir toutes ces plantes et tous ces animaux en même temps, vous avez même très peu de chances d'en voir certains, mais en fait, ce sont des animaux et des plantes sauvages qui vivent sur Paris. Alors, pour paraphraser le slogan célèbre de cette série de conférences, je dirais que ça aussi, c'est Paris. Je vous remercie.
Leurs propriétaires, qu'évidemment les soucis écologiques n'étouffaient pas, avaient jeté des crocodiles, c'est-à-dire qu'ils les avaient jetés dans les tuyauteries et que les crocodiles s'étaient reproduits dans les égouts de la ville de New York. Nous n'avons aucune, je ne dis pas possibilité d'avoir des crocodiles dans les égouts de Paris, mais quelques autres formes de biodiversité.
J'ai jamais entendu parler d'une population de crocodiles stables dans les égouts de Paris.
Ou d'autres choses un peu
bizarres. Il y a eu une conférence, je crois, sur les égouts. Je ne sais pas s'il en a parlé, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, il y en a ailleurs des crocodiles, de Paris, mais dans les égouts, non.
Et une autre chose qui m'a étonnée, c'est l'introduction du rat noir et du lapin, d'une façon que j'ai trouvée très tardive. Si je ne m'abuse, c'est au XIIe ou au XIIIe siècle. D'où venait-il ?
Du sud de la France.
Bonsoir, monsieur. Votre excellent exposé a excité ma curiosité. Donc, je me permets de vous poser une question purement accessoire. Vous avez parlé de Joseph Vallot, botaniste. Est-ce qu'il s'agit de la même personne qui a laissé son nom au refuge, qui se trouve tout juste au-dessous de Mont-Blanc ?
Et je l'ignore, monsieur. Moi, je ne connais que ses écrits botaniques, qui sont très intéressants, mais je ne sais pas s'il est allé explorer ailleurs. C'est possible, parce que bien souvent, vous savez, les naturalistes parisiens sont peu restés sur Paris et préféraient aller explorer des contrées plus lointaines que Paris. C'est possible, mais je n'en sais rien.
Je voudrais savoir une simple question. Quelle est la place du moineau de Paris ?
À quel point de vue ?
Où s'en est au point de vue quantité de moineaux qu'il puisse y avoir à l'heure actuelle ? Et savoir s'il est en voie de disparition, si c'est stable ou...
Il y a une étude...
C'est en évolution.
Oui, alors il y a une étude qui est en cours sur le moineau de Paris, puisqu'il y a eu un plan d'action. Ce que je veux dire, c'est que c'est un domaine où il y a pas mal de conflits d'interprétation des données. Et c'est vrai qu'il y a eu certains scientifiques qui ont parlé d'une diminution des populations d'espèces communes récemment. Je connais bien ces scientifiques. Je crois que c'est à prendre avec beaucoup de précautions parce qu'on a des données contradictoires qui montrent que ces populations sont stables. Je crois qu'il faut faire très attention, j'ai essayé un peu de le dire, quand on parle de dénombrement de populations, il faut être assez exhaustif, à la fois exhaustif au point de vue spatial, c'est-à-dire essayer de recouvrir tous les espaces, mais aussi au point de vue milieu. Et vous pouvez très bien avoir des diminutions de population de moineaux dans certains secteurs de Paris qui correspondent à un milieu dans lequel ils ne vont pas trouver leur alimentation et avoir une expansion ailleurs. Donc il faut que l'échantillonnage soit parfaitement rigoureux pour essayer d'apprécier l'évolution de ces populations. Donc, je vais vous faire une réponse de Normand, c'est qu'on a des données qui permettent de dire qu'il y a des diminutions de population de moineaux, mais c'est contesté par d'autres scientifiques. Donc on n'a pas de conclusion fiable aujourd'hui. Les seules conclusions fiables, je vous les ai données, c'est pour l'hirondelle des fenêtres et pour le faucon cresserel, où là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de polémique. Mais ce n'est pas du tout le même type d'animaux. Là, on peut dénombrer facilement les colonies, alors que pour le moineau, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus facile d'avoir des données sur des espèces rares, peu répandues, que sur des espèces bien répandues.
Vous avez dit qu'il y avait une barrière, évidemment, entre Paris et la banlieue, le périphérique, les maréchaux, bien évidemment. Mais il y a quand même des passages parce que le schéma qui se trouve dans le gratuit du journal 20 minutes là, montre que les arrondissements les plus diversifiés, enfin, où il y a une plus grande densité, sont le 16e qui est proche du bois de Boulogne et le 12e qui est proche du bois de Vincennes. Donc il y a quand même des passages. Et puis. Il y en a peut-être d'autres. Alors, ma question est, il y a deux endroits dont on a beaucoup parlé à un moment donné dans Paris, dont on entend moins parler maintenant, c'est les coulées vertes. Il y avait celle de la Bastille à Vincennes, justement, et puis celle de Montparnasse, vers Saint-Gétorix, à la Porte de Vanves, qui se prolonge vers le sud, même assez loin. Alors, est-ce que ce sont des coulées vertes intéressantes pour vous ? Devraient-elles être augmentées, élargies, etc. Merci.
C'est sûr qu'il y a des échanges entre les populations de banlieue et les populations du centre de Paris. Pour la fouine, on en est certain. Pour d'autres animaux, c'est vraisemblable, mais on n'a pas de documentation véritablement scientifique qui permette de dire avec précision qu'il y a des échanges par rapport à telle coulée, comme vous l'avez signalé. Il y a des échanges, mais par où est-ce qu'ils passent, on ne le sait pas trop bien. Mais je crois que là aussi, il faut quand même être raisonnable. Paris, vous l'avez dit, il y a la coupure du périphérique, qui est quand même une coupure très très forte pour la biodiversité faunistique. Et on ne peut pas penser que des espèces de grands mammifères vont se déplacer à travers le périphérique comme ça et vont venir traverser Paris. Bon, il y a bien sûr les deux bois, Vincennes et Boulogne, mais en fait, les échanges vont avoir lieu entre le bois de Vincennes et puis Paris lui-même, Boulogne et Paris lui-même. Mais il y a très peu de chances qu'il y ait des échanges entre les forêts périphériques d'Île-de-France, Boulogne, Vincennes et puis le centre de Paris. Paris est quand même très isolé au sein de l'agglomération. Alors, c'est vrai que pendant un moment, on a beaucoup entendu parler du rétablissement des continuités entre les quelques îlots de biodiversité dans Paris et puis l'extérieur de Paris. Mais bon, je crois que c'est un peu illusoire. On n'arrivera jamais à faire en sorte que les parcs urbains de Paris soient complètement connectés avec le réseau des forêts d'Île-de-France. Cette coupure du périphérique, c'est pas uniquement une coupure sociale, hein, c'est aussi une coupure biologique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette coupure-là, elle n'existe pas dans notre capitale européenne. Bon, bien sûr, Genève, c'est beaucoup plus petit que Paris, mais il y a des échanges entre la faune du centre de Genève et la faune de l'extérieur de Genève, qui est beaucoup plus facile que dans Paris, de même que pour Bruxelles. Donc, c'est vrai que cette coupure du périphérique, elle est quand même problématique en termes de biodiversité. Après, est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'on veut vraiment conserver une biodiversité très importante dans Paris? Là, ce n'est plus l'affaire du scientifique, c'est l'affaire du politique.
Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi le renard vit surtout dans le 11e.
Oh, je n'ai pas dit qu'il vivait surtout dans le 11e, j'ai dit qu'il y en avait, en particulier dans le 11e, qu'on pouvait le voir à la station de métro République, mais il vit pas mal aussi dans la petite ceinture. Hein. Non. Alors, pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans le 11e? Ça, j'en sais rien. Mais Paris n'est pas la seule capitale européenne où il y a eu des renards dans ses métros. Il y a eu aussi des renards dans le métro de Londres.
L'élante est très répandue à Paris. Est-ce dû à l'élevage des bombyx ou au fait qu'ils prolifèrent?
Non, l'élante c'est répandu parce que c'est planté le long des voies, le long des rues de Paris. Il n'y a plus du tout d'élevage de bombyx aujourd'hui. Hein.
Mais est-ce qu'il n'est pas dangereux?
Ah non.
Non.
Bah, vous savez, moi, je ne connais pas de papillons dangereux.
En province, on le voit pulluler.
L'élante ou le bombyx?
L'élante.
Ah, l'élante, oui. Mais il ne s'agit pas de la même espèce d'élante qui pullule, qui est invasive ailleurs.
L'élante ou vernis du Japon.
Oui, c'est ça. Mais il y a une autre espèce d'élante qui est plus invasive ailleurs. Ce n'est pas celle-là.
Il y a deux espèces.
Oui.
Et il y en a une que l'on voit un peu partout, qui a l'air de se développer au moins en province, et en particulier le long des routes.
À Paris, je n'ai pas de connaissance d'une prolifération des élantes qui soit nuisible à la biodiversité. Hein. Je n'ai pas connaissance.
On la voit aussi dans les cours de...
Oui, mais bon, ça reste circonscrit dans Paris. C'est pas... Non, je ne crois pas. Ce n'est pas un arbre pour lequel il y a beaucoup de danger.
Je voulais savoir s'il existait une espèce actuellement, enfin, autochtone ou introduite, qui puisse être réellement efficace pour combattre le rat.
Ah oui, oui, il y en a une qui existe, bien sûr.
Le chat?
Non, non, l'homme.
À mon avis, c'est un peu faible.
Non, je crois que bon, pour les rats, ce n'est pas un problème de compétition avec une autre espèce animale. C'est un problème de salubrité publique, mais ce sont d'autres techniques que essayer d'introduire un prédateur du rat. Ça n'aurait aucun sens sur Paris.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les pigeons? Est-ce qu'il y a vraiment excès de pigeons? Tout le monde a vu toutes les pointes qui sont mises partout pour en...
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le pigeon ramier est en voie d'expansion sur Paris. Ça, je peux vous le dire. Vraisemblablement, le pigeon bugé est en voie un petit peu de régression, vraisemblablement, parce qu'il faudra attendre quelques années pour avoir des données consolidées. Après, la population de pigeons est, c'est vrai, très importante sur Paris. Bon, après, ça, c'est plus une question... le problème du pigeon, ce n'est pas une question biologique. Hein. On sait que c'est une population qui est très importante. Après, c'est aux autorités municipales à voir s'ils veulent le réguler ou non. C'est pas... Moi, je peux vous dire que le pigeon ramier est en voie d'expansion. Ça, oui. C'est tout.
Bonjour.
Bonjour.
Il y a une espèce ou
dont vous n'avez pas parlé, ce sont les, enfin d'autres aussi, oui, mais ce sont les corbeaux. On voit. Alors, est-ce que c'est un problème qui se pose dans Paris ou dans les jardins ou ailleurs, ou c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, pour lequel on n'a pas d'éléments d'information très, très importants?
D'abord, ce sont les corneilles, et pas les corbeaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça pose problème?
Est-ce qu'il y a des changements très, très forts à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des augmentations contrairement à d'autres espèces ou pas?
Sur les corneilles, je n'ai pas connaissance de données quantitatives bien précises qui montrent objectivement une augmentation des populations. Sûrement qu'il y a une augmentation des populations, mais comme pour beaucoup d'espèces, je ne crois pas qu'il y ait de données objectives qui permettent de quantifier cette augmentation au cours du temps. Voilà. Après, qui provoque des dégâts, ça c'est une autre affaire. Oui, on en est bien d'accord.
Jacques Moret, merci beaucoup.
Merci.